Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Mali, 5 soldats français ont été légèrement blessés ce jeudi par des tirs de mortier contre le camp des forces de l'ONU et de l'armée française à Kidal, dans le nord du pays, où le premier ministre malien Soumeilou Boubey Maïga était attendu dans la journée. C'est ce qu'annonce le colonel Patrick Steiger, porte-parole de l'état-major français. La force française Barkhane est aussitôt intervenue et a interpellé au moins 4 personnes en lien plus que probable avec ces tirs, a ajouté le colonel Steiger. L'attaque a fait d'importants dégâts matériels, a précisé de son côté la radio de la MINUSMA, Mikado FM, dans un tweet. En Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre ont empêché ce jeudi à Abidjan une manifestation de l'opposition et arrêté un de ses porte-paroles. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, avait appelé à une manche pour protester contre la commission électorale indépendante, accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir, et pour protester également contre la tenue d'élections sénatoriales samedi. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 dans le pays continue ce jeudi à Ouagadougou. En présence des principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Comme attendu à la reprise du procès hier, la défense a de nouveau contesté la légalité du tribunal. Un rappel des activités au tribunal militaire mercredi avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Les discussions ont tourné sur les questions de forme, notamment la légalité du tribunal militaire. Selon les avocats de la défense, la composition du tribunal devant juger les généraux Gilbert Diendéré, présumé cerveau de ce coup d'état manqué, Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé, et au moins 80 personnes est irrégulière. Le président du tribunal ainsi que les différents juges ont été nommés pour siéger au niveau de la chambre de jugement, alors qu'ici, il s'agit de la chambre de première instance qui devait statuer, ont indiqué les avocats de la défense. Ces derniers ont aussi contesté la régularité du parquet militaire. Ces observations n'ont pas de base légale, ont rétorqué tour à tour le parquet et la partie civile. Toute cette journée de ce procès qualifié d'historique au Burkina Faso a été une bataille procédurale.
C'était notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. La procureure de la Cour pénale internationale en visite en République centrafricaine. Arrivée mardi soir à Bangui, Fatou Bensouda a mis l'accent hier sur le rôle qu'aura joué la Cour pénale spéciale, une nouvelle juridiction chargée d'enquêter sur les violations graves des droits humains commises en RCA depuis 2003. De la capitale centrafricaine, la correspondance de Freeman Sipila.
La Cour pénale internationale a ouvert un nouveau dossier sur la République centrafricaine. Elle enquête depuis septembre 2014 sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte de la recrudescence des violences dans le pays à partir de 2012. La procureure de la Cour pénale internationale est dans la capitale centrafricaine pour appuyer la mise en place de la Cour pénale spéciale, une juridiction qui devra elle aussi juger les crimes graves commis dans le pays. Fatou Bensouda a assisté à l'ouverture de la formation des membres de la Cour pénale spéciale.
C'est un honneur pour moi d'avoir été convié à l'ouverture de la toute première formation à Bangui à l'intention des magistrats de la Cour pénale spéciale. Cette Cour est dotée d'un mandat complémentaire à celle de la Cour pénale internationale. Avec les juridictions ordinaires centrafricaines, nous allons résolument poursuivre nos actions contre l'impunité des crimes graves commis en Centrafrique.
La procureure de la CPI restera 3 jours à Bangui et devra aussi s'entretenir avec les autorités centrafricaines. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, 13 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, ont besoin d'assistance humanitaire en République démocratique du Congo, selon l'ONU, qui dit avoir besoin $1,7 milliard pour leur venir en aide. La situation est particulièrement préoccupante dans la province du Kasaï, dans le centre du pays. Notre envoyé spécial Anita Paol s'y est rendu. Son reportage est relaté par Jean-Roger Bion.
La crise qui embrase la province du Kasaï dans le centre de la RDC a fait plus d'un million de déplacés. Parmi eux, la petite Georgette, âgée de 14 mois, pèse 7 kilos, bien moins qu'un enfant de son âge. Les affrontements de l'année dernière entre la milice Kamuina Nsapu et l'armée congolaise ont forcé Georgette et sa famille à quitter leur village et à abandonner leur champ, explique sa maman Suzanne Lukaji.
Nous avons fui dans la brousse. Elle est tombée malade et ne pouvait pas manger. Elle toussait. Nous avons passé 6 mois en brousse.
Des 1,7 milliard de dollars qu'elles ont sollicités pour la RDC, les agences onusiennes n'ont reçu qu'une infime partie. Oscar Boutragueño est responsable de l'UNICEF dans la province du Kasaï.
Nous estimons que 150 000 enfants sont affectés. C'est donc très sérieux. De nombreuses personnes sont encore déplacées et ne peuvent pas retourner chez elles. Même avant la crise, les responsables humanitaires affirmaient déjà que plus de la moitié des enfants souffraient de malnutrition chronique.
Au centre de distribution de vivres du village de Chikula, les habitants se bousculent pour recevoir leur maigre ration de maïs, haricots, huile et sel fournis par le Programme alimentaire mondial. Juste de quoi ne pas mourir de faim, fait remarquer Jean-Pierre Ngalamouloumé, un enseignant.
Les élèves en état aussi de faiblesse, bon, on transmet des matières, mais pour vous écouter, c'est tout à fait un peu difficile. Même les enseignants, là, ça ne donne même pas de courage d'enseigner, continuez aussi de vendre.
L'UNICEF a averti que jusqu'à 400 000 enfants de moins de 5 ans risquent de mourir de malnutrition aiguë cette année en RDC si elle n'obtient pas l'appui sollicité auprès des donateurs.
Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a accordé une amnistie à quelques 3 000 personnes, pour l'essentiel des femmes et des jeunes incarcérés dans les prisons surpeuplées du pays. Environ 3 000 détenus sont concernés par cette mesure. Les condamnés pour meurtre, trahison, viol, vol à main armée ou avec violence ou se punis par une cour martiale sont exclus de la mesure d'amnistie. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a appelé hier les électeurs à participer massivement à l'élection présidentielle de la semaine prochaine. Il fera face à un seul candidat qui est aussi un de ses fervents partisans, Abdourahmane Diab.
C'est un scrutin qui se déroulera sur 3 jours, les 26, 27 et 28 mars. Abdel Fattah al-Sissi brigue un deuxième mandat de 4 ans. Ancien chef de l'armée, il a été élu en 2014, un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi. Plusieurs autres prétendants à la présidence ont été écartés. L'ancien chef d'état-major Sami Anan a été interpellé peu après avoir annoncé sa candidature. L'ex-premier ministre Ahmed Shafik, à son retour d'exil, a été gardé dans un hôtel jusqu'à ce qu'il retire sa candidature. Le président Sisi estime que l'absence de concurrents sérieux n'était pas de sa responsabilité. Son seul rival, Moussa Mustapha Moussa, a battu campagne pour lui avant de se lancer dans la course le 29 janvier dernier. D'ailleurs, il avoue que c'est pour éviter à M. Sisi d'avoir à se présenter seul dans un scrutin aux allures de référendum. Il a remercié le président égyptien en disant que, quel que soit le résultat final, mon respect pour vous et vos réalisations resteront un idéal dans ma vie et à l'avenir.
En France, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, mis en examen dans le cadre d'une enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007, a affirmé qu'il vivait l'enfer de la calomnie. Selon sa déclaration au magistrat, reproduite aujourd'hui sur le site internet du journal Le Figaro. Jacques Aristide nous en dit plus.
Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie, a déclaré M. Sarkozy, qui dénonce également l'absence de preuves matérielles dans les accusations portées contre lui. L'ancien chef de l'État français, 63 ans, a été inculpé hier soir pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens, ce qui marque un coup d'accélérateur dans cette affaire instruite par des magistrats français depuis près de 5 ans. Les faits dont on me suspecte sont graves. J'en ai conscience, mais si, comme je ne cesse de le proclamer avec la plus totale constance et la plus grande énergie, si c'est une manipulation du dictateur Kadhafi ou de sa bande ou de ses affidés, alors je demande aux magistrats de mesurer la profondeur, la gravité, la violence de l'injustice qui me serait faite, a conclu l'ancien président français.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Les responsables de la majorité républicaine et de l'opposition démocrate au Congrès américain ont annoncé un accord négocié de haute lutte afin de financer durablement l'État fédéral. Le compromis survient alors que la date butoir de vendredi pour l'adoption du budget fédéral approche à grands pas. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.